Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On remercie nos chantres et nos musiciens qui nous ont conduits au travers de ce temps de louange et d'adoration. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons surtout ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je l'ai dit un petit peu en introduction, je suis content de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence et pour cause. Le départ de mon papa, j'en parlerai tout à l'heure lors des annonces. Mais d'abord, concentrons-nous sur ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et j'aimerais bien revenir sur ce qu'a été l'expérience, ou en tout cas le témoignage de notre ami Saul de Tarse, celui qui s'appellera plus tard l'apôtre Paul et qui continue à nous faire du bien. D'ailleurs, l'introduction à la Sainte-Seine, ni plus ni moins, un des écrits bien de cet homme de Dieu, on peut le dire. Et j'aimerais donc que nous puissions retrouver un petit peu la rencontre que cet homme a fait avec Jésus. Et pour ce faire, je vous encourage à lire avec moi Actes chapitre 9, alors du verset 1 jusqu'au verset 16. On pourrait continuer la lecture, mais on va juste s'arrêter au 16, premier verset de ce chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. On dit Actes des Apôtres, mais on aurait pu dire les Actes du Saint-Esprit, parce que là nous voyons l'Église naissante et le Saint-Esprit qui se manifeste comme il sait si bien le faire. Alors nous lisons ensemble. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entre et qui lui impose les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen et Amen. » Nous aurons la joie de retrouver cet homme de Dieu bien là-haut dans le ciel de gloire, car nous le savons, il est auprès du Seigneur actuellement. Et donc le texte que nous venons de lire donc relate la conversion de notre ami Saul de Tarse, qui plus tard, je l'ai dit, deviendra le grand apôtre Paul. Saul était un juif issu de la tribu de Benjamin, et il était aussi originaire de la ville de Tarse qui se situe au sud de la Turquie actuelle. Saul était aussi un fervent disciple du parti le plus rigide du système religieux juif de l'époque, c'est-à-dire le pharisaïsme. Notre ami Saul était un pharisien, quelqu'un qui était animé par un zèle excessif pour la loi, mais aussi pour les traditions judaïques. Et de ce fait, Saul avait une profonde aversion pour tout ce qui pouvait s'appeler chrétien, tout ce qui pouvait être homme ou femme, disciple de Jésus-Christ. Et cet homme, eh bien, était pris d'un zèle tel qu'il était prêt à pouvoir même quitter la Palestine et aller dans d'autres pays pour essayer de traquer tout ce qui pouvait s'appeler chrétien, tout ce qui pouvait être considéré comme, on l'a lu dans le texte, partisan de la nouvelle doctrine. Et c'est ce que nous avons lu dans le texte. Il a quitté la Palestine bien pour aller donc en Syrie, c'est-à-dire à Damas, c'est-à-dire à l'est de la Palestine, pour aller là-bas persécuter et arrêter surtout bien tout ce qui pouvait s'appeler chrétien. Mais c'est sur le chemin de Damas que Jésus l'a rencontré. C'est sur ce chemin-là bien que sa vie a été bouleversée. C'est sur ce chemin-là que notre ami Saul de Tarse connut le début d'une nouvelle vie. Et j'aimerais ce matin, très rapidement, au travers du texte d'introduction que nous avons lu, au travers de cette rencontre entre cet homme et le Seigneur Jésus, nous interpeller ce matin. Alors tout simplement, tout d'abord, notons au verset 3, dans le texte que nous avons lu, acte chapitre 9, verset 3, ce qu'il est dit, il nous est dit, comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout cela pour peut-être rappeler que c'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas. Souvent on dit « oui, j'ai cherché le Seigneur toute ma vie, etc. » Pour être honnête, c'est toujours le Seigneur qui commence à faire le premier pas. Amen ou pas amen? Et si nous l'aimons aujourd'hui, c'est parce qu'un jour nous avons reconnu qu'il nous a aimés le premier. Et nous le voyons là, il se manifeste, il est désireux que nous tous, hommes ou femmes, nous puissions un jour le rencontrer. Un jour, effectivement, faire une expérience avec lui. C'est lui qui a fait le premier pas. D'ailleurs, il est dit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65. Prenez des stylos, vous savez que j'aime bien vous donner des références dans la parole de Dieu. Je crois qu'un verset est plus parlant que mille paroles. Regardez ce qu'il est dit. Ésaïe, chapitre 65, verset 1. Le prophète Ésaïe qui dit « J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et encore aujourd'hui, Dieu se manifeste à des hommes et des femmes qui ne le cherchaient pas. Personnellement, issu d'une famille chrétienne, bien que étant fidèle pour venir, quand j'étais encore tout jeune, à l'école du dimanche, on appelait cela comme cela, je ne cherchais pas forcément le Seigneur. Je savais qu'il existait, je ne remettais pas en cause l'existence de Dieu, bien sûr. Mais quelque part, c'est Dieu qui a commencé à bien se révéler à ma vie. C'est lui qui a fait le premier pas. Et croyez-moi, si Dieu se révèle à ceux qui ne le cherchaient pas, comme on vient de le lire, alors à plus forte, combien plus forte raison, Dieu se laissera trouver par ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Et si nous nous appliquons à chercher Dieu de tout notre cœur, Dieu se révélera davantage à nous. Frère, nous n'avons pas encore commencé de connaître qui est le Seigneur. On peut le chanter comme on l'a chanté au travers de ces merveilleux chants ce matin. Parler de Jésus, oh ce nom est si merveilleux. Mais connaissons-nous le Seigneur? On y reviendra. Ainsi Jésus a choisi de se révéler à Saul par le moyen d'une éclatante lumière. Cet homme, je ne sais pas s'il était à cheval ou il était à marcher. Et puis à un moment donné, il voit cette éblouissante lumière qui le terrasse et qui le projette à terre. Et cette lumière, quelque part, est une belle image de ce que Jésus commence à faire lorsqu'il vient frapper à la porte d'un cœur. Il est la lumière. Et quand il vient, il apporte la lumière de sa personne. Il vient et il apporte cette lumière qui va éclairer notre intelligence, qui va éclairer notre cœur. Et ce n'est pas un hasard que Jésus lui-même s'est présenté comme étant la lumière du monde. Jean, chapitre 8 et le verset 12, un autre verset, je crois qu'il faut qu'on connaisse par cœur. Jésus dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais au contraire, il aura la lumière de la vie. » Et si tu suis le Seigneur ce matin, tu es heureux parce que tu marches dans la lumière de Christ. Il a dit autre part, ne le cherchez pas, Jean chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et pour revenir à notre texte, pour revenir à l'expérience de Saul, Saul lui-même avait besoin d'être éclairé par la lumière de Christ. L'aveuglement de Saul le plongeait dans un fanatisme meurtrier, puisqu'on l'a lu au verset 1, il respirait la menace et le meurtre. Le meurtre à l'égard et contre les disciples de Jésus-Christ. Et cette haine des chrétiens est toujours d'actualité. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a de cesse d'entendre jour après jour des massacres de chrétiens. Frères, nous sommes heureux ici. On a la liberté de venir, je viens pas, il fait beau, il fait pas. Mais là-bas, pour se rassembler, c'est quelquefois au prix de leur vie qu'ils se rassemblent, frères et sœurs. On a aussi vent eh bien, de toutes ces églises, tous ces bâtiments qui sont détruits, parce que le diable a en horreur le rassemblement des chrétiens. Il y a une force. La Bible dit dans le livre des psaumes, « À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est là où Dieu répand sa bénédiction. » Et ce matin, nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Il faut que nous puissions réaliser ces choses, frères et sœurs. Et n'allez pas croire qu'à cause de la pandémie, eh bien, le taux de persécution des chrétiens dans le monde a baissé. Au contraire. Constatez que malgré la pandémie, le taux de chrétiens persécutés n'a de cesse d'augmenter. Parce que le problème, il est spirituel. Il est spirituel, frères et sœurs. Jésus a prévenu ses disciples en disant, dans Jean chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 3, les paroles suivantes, Jean chapitre 16, versets 1 à 3. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père et ni moi. » Et quand je regarde l'histoire de Saul de Tarse, je comprends que c'est plus, et c'est juste à propos. Cet homme a bien essayé de traquer tout ce qui pouvait s'appeler chrétien. À l'époque, c'était un terroriste. Il terrorisait l'église de Jésus-Christ. Mais on comprend aussi bien que cet homme ne connaissait pas Dieu le Père, ni Dieu le Fils. Et c'est pourquoi le Seigneur se révèle à cet homme. Et c'est là où on voit tout l'amour du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, que Saul, sur le chemin de Damas, il est arrêté par cette lumière. Et Jésus qui commence à lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça devait être extraordinaire d'entendre cette voix audible, que d'ailleurs même les autres soldats qui étaient aussi avec Saul de Tarse ont entendu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et remarquez que Jésus, à ce moment-là, n'a pas dit « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon Église ?» Il aurait pu dire « Mais pourquoi persécutes-tu les disciples, mes disciples ?» Non, Jésus va dire à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et quelque part, la question de Jésus sous-entend que nous sommes les uns et les autres unis spirituellement à Jésus-Christ. Lorsqu'on nous touche à nous, nous touchons à la personne du Seigneur. Est-ce que vous le croyez, ça? J'ai beaucoup aimé, est-ce que vous avez fait attention aussi aux dons spirituels ce matin, quand il a dit, le Seigneur, au travers de la bouche de sa servante, que nous étions comme la prunelle des yeux du Seigneur. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ce qui est aussi sur mes notes. Zacharie chapitre 2, le verset 8, il nous est dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Et cette parole doit être réconfortante. Même la question de Dieu à l'adresse de cet homme Saul doit nous interpeller ce matin et nous rappeler, alléluia, que Dieu a le regard sur nous, que nous sommes précieux et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tes épreuves, tes difficultés, de tout ordre, Dieu n'en est pas indifférent. Au contraire, il pleure avec ceux qui pleurent. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne le cherchez pas. Matthieu chapitre 25, verset 40, juste la deuxième partie de ce verset 40, il nous est dit, et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mon frère, ma sœur, quand tu souffres, Jésus souffre aussi avec toi. Mais quand aussi à l'inverse tu te réjouis, Jésus aussi se réjouit avec toi. Est-ce que nous le croyons? C'est une réalité. Et c'est pourquoi ne nous laissons pas peut-être même tromper par de faux raisonnements. Dieu n'est pas indifférent à nos luttes. Dieu n'est pas indifférent à nos combats. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Bien au contraire, Dieu non seulement compatit nos souffrances, mais mieux encore, il est la réponse, il est la solution pour intervenir dans tous nos besoins, frères et sœurs. Et c'est alors que Saul répondit à Jésus. Deux questions. Deux questions qui vont attirer notre attention ce matin. Première question que Saul pose au Seigneur Jésus, alors que ce dernier lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répond Mais qui es-tu, Seigneur ? C'est une question intéressante. Qui es-tu, Seigneur ? Et même après des nombreuses années de conversion, nous sommes en droit de nous approprier cette question et nous poser aussi la question, mais qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? C'est là une première question qui, à mon sens, est capitale pour nos vies chrétiennes. Saul avait reçu du ciel la révélation qu'il avait affaire à un être supérieur. C'est pour ça qu'il dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Mais on se rend compte que par cette question, eh bien, il avait besoin de connaître de qui eh bien, il s'agissait. Il était convaincu à l'instant même par le Saint-Esprit qu'il avait affaire à Dieu lui-même. Et il dit, qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? Cette première question est importante, car trop de chrétiens font profession de servir Dieu, de suivre le Seigneur. Mais à la réalité, ils ne savent pas qui est le Seigneur. Vous savez, on peut connaître le Seigneur de manière intellectuelle, même théologique, affective, ou par hérédité, parce que les parents, des parents, c'est celui, etc. Mais il est question de connaître le Seigneur de cœur. Il est question d'avoir une rencontre personnelle avec lui, d'avoir une révélation de qui est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs ? Juste un exemple parmi tant d'autres. On se rend compte que Jésus a bien choisi des disciples. Il précise, il les a choisis pour les avoir avec lui. Et on voit les disciples à un moment donné devoir traverser le lac de Galilée avec le Seigneur, en compagnie du Seigneur. Et puis au beau milieu de ce lac, ils sont malmenés par une tempête. Et puis entre-temps, Jésus s'était assoupi, certainement à cause de la fatigue. Il n'avait même pas un lieu pour reposer sa tête, tellement il faisait des œuvres. Et puis, là, ballotté au cœur même de cette tempête, les disciples affolés, pensant qu'ils allaient périr, réveillent le maître, « Maître, nous périssons !» Et ils sont surpris parce que d'une parole, le Seigneur calme la tempête. J'aurais aimé être là, frères et sœurs. Croyez-moi, je n'ai pas trop le pied marin, mais j'aurais aimé vivre ce calme. Et je crois qu'il a amené le calme à l'extérieur, mais il a amené aussi le calme à l'intérieur. Et ce matin, Dieu veut amener le calme à l'intérieur d'un cœur. Tu es agité. Et tu sais ce que tu vis au quotidien. Mais le Seigneur, c'est celui qui se présente comme étant la paix, le prince de la paix. Il est capable d'apaiser ton cœur. Arrête de t'agiter. Et là où je voulais en venir avec vous pour cette expérience avec les disciples, c'est qu'ils se questionnent. Ils ont déjà fait un bon bout de route avec le Seigneur, mais ils sont tous ensemble à se questionner. Et on voit cette question qu'ils se posent, Marc chapitre 4, verset 41. Et pour le coup, lisez-le avec moi, Marc chapitre 4, verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et là, dans ce calme plat, au milieu du bateau, leurs yeux écarquillés et dirigés vers le Seigneur qui était là avec eux dans la barque. Et ils se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Frères et sœurs, quand Saul posa la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui-même lui répond. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Je pense que là, il est tombé des nues, mes amis. Alors lui, qui était là, sincère, dans toutes ses démarches pour arrêter tout ce qui pouvait s'appeler chrétien, il constate qu'il est sincèrement dans l'erreur, car on peut être sincèrement dans l'erreur. Frères et sœurs, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous pouvons être sincèrement dans l'erreur. Et pratiquer des choses, effectivement, que jamais Dieu nous a demandé, au contraire, qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Et vous comprenez pourquoi même ici en France, la Bible a été combattue. Le diable a tout fait pour empêcher les Français de pouvoir plonger leur regard dans la parole de Dieu. Car, alléluia, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, on découvre qui est Jésus-Christ. Qui est le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a un seul nom, c'est le nom de Jésus. Et j'ai beaucoup aimé ce matin l'intervention de notre chantre Sylvain qui nous a conduit à pouvoir exalter la personne de ce nom merveilleux, la personne de Jésus-Christ. Je suis venu ce matin parler de Jésus. C'est lui qui libère, c'est lui qui est présent parmi nous, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Le Seigneur lui répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mon frère, ma sœur, que sais-tu de Jésus ce matin ? Vous savez que la Bible nous révèle l'identité de Jésus. Regardez un exemple parmi tant d'autres, l'apôtre Jean, quand il a fini son évangile, l'évangile qui porte son nom, l'évangile selon saint Jean, il explique la raison d'être de ses écrits. Il dit, Jean chapitre 20, verset 31, il dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible, quand on la lit, quand on prend le temps de plonger nos regards, comme le dit l'épître de Jacques, nous découvrons qu'en filigrane, le nom de Jésus est exprimé à travers chaque page. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit à ses détracteurs, à ceux qui s'opposaient à lui durant son ministère, « Mais vous sondez les Écritures, mais vous ne savez pas que c'est elles, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle ?» Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une pratique pieuse qui nous sauve, ce n'est pas nos mérites, mais c'est de découvrir la personne de Jésus. Vous savez, quand on plonge les regards dans la parole de Dieu, on découvre que Jésus, il est présenté comme le bon berger. Lui-même l'a dit, je suis le bon berger. Alors parce qu'il est le bon berger, parce qu'il est ton bon berger, ne crains rien. Tu chemines, mais quand on est enfant de Dieu, quand on est disciple de Jésus-Christ, on ne marche pas d'une manière errante. Je parle avec des gens de l'extérieur. Frères et sœurs, ils peuvent avoir même toutes les richesses. On sent qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont dans l'inquiétude par rapport au lendemain, par rapport à tous les événements. Mais nous, enfants de Dieu, nous suivons le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous suivons le bon berger qui nous a laissé tellement de promesses. Quand on lit le psaume 23, on découvre tous les bienfaits que nous apporte le bon berger. Jésus se présente aussi comme étant le pain de vie. Jésus est le pain que tu recherches. Les gens n'ont pas seulement besoin de pain physique. Ils ont aussi besoin de pain spirituel. Il y a des gens qui ont faim de paix. Il y a des gens qui ont faim ce matin même de joie. Ils ont pourtant tout, matériellement parlant, mais ils n'ont pas la joie. Il y en a qui ont faim sur le plan spirituel, psychologique, mental. Mais Dieu est le pain de vie qui est capable de combler et rassasier tout notre être. Jésus est aussi la source d'eau vive qui veut désaltérer tout notre être. Frères et sœurs, quand on est désaltéré auprès de la source qui est Jésus-Christ, alors on n'a plus besoin d'aller courir à droite, à gauche. Il y a des gens qui s'épuisent, même jusqu'à très tard, pour assoiffer le vide qui est dans leur cœur, pour désaltérer leur soif. Jésus a souffert la soif sur la croix pour que nous n'ayons plus en retour à souffrir la soif. Il a dit aussi qu'il est le chemin qui peut nous conduire au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ce chemin étroit, resserré certes, mais qui mène au Père et qui mène mieux encore à la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, qui se présente aussi comme la résurrection, mais aussi la vie véritable. J'ai la vie de Dieu en moi. Et quand viendra mon heure pour terminer ma course ici-bas, c'est pour rejoindre le Seigneur et pour me projeter dans l'éternité avec mon Dieu. C'est ça l'espérance des chrétiens. C'est ça, qui est notre force. Alléluia, ce matin. Jésus est aussi la vérité qui a le pouvoir de nous affranchir. Vous savez, tant qu'on demeure dans le mensonge, on ne risque pas d'être libre. Mais quand on se laisse confronter par la vérité qu'est Christ, alors tout change. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois des gens qui, dans leur orgueil, restent et demeurent dans le mensonge. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, mais ils ne mentiront jamais à Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses, ils sont les reins et les cœurs. Mais quand on capitule devant le Seigneur, qui est la vérité, alléluia, on découvre qui est le Seigneur. Il est aussi la lumière, et on le voit au travers de cette expérience, la lumière qui est capable d'éclairer. Au commencement était la lumière, et la lumière était même la vie même des hommes. La lumière est venue chez les siens, en parlant des Juifs, et elle est venue parmi elles. Mais ces derniers ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cette lumière c'est Jésus. Voulez-vous connaître le Seigneur, frères et sœurs ? Voulons-nous davantage connaître le Seigneur ? Jésus nous indique un événement. Un événement qui nous projette il y a 21 siècles plus tôt. À ce moment fatidique où on a amené le Seigneur. Ou plutôt, lui-même s'est livré tel l'agneau de Dieu sur ce mont qu'on appelle Golgotha. Et sur ce mont, accepté de mourir entre deux brigands. Vous savez, aujourd'hui, le tableau de ce monde, c'est un peu l'image de ces trois personnes. Là, sur ce mont, Golgotha, Jésus au centre, parce qu'il faut indéniablement qu'il soit au centre de toute chose. Et puis, il y a le brigand qui a été repentant, et puis l'autre qui a décidé de rester dans son erreur et dans son péché surtout. De quel camp fais-tu partie ? De quel camp fais-tu partie ? Jésus a dit, Jean chapitre 8 et le verset 28, la déclaration suivante. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais d'ailleurs rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais je précise avec vous, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Veux-tu connaître qui est Jésus ? Alors tu as besoin peut-être de revenir, de retourner à la croix, reconsidérer l'amour de Dieu, mais aussi l'amour de Jésus-Christ lui-même, et qui s'est proposé d'être cette victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés. C'est comme cela qu'on connaît qui est Jésus. Et on découvre qu'il est finalement le seul sauveur que Dieu, dans son amour, a envoyé parce que nous étions tous destinés à la perdition, à la géhenne, frères et sœurs. On était destinés à bien une perdition et en plus une perdition éternelle. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé un sauveur. Pas deux, pas trois. C'est pour ça qu'inutile de se tourner vers les saints, inutile de se tourner vers quelqu'un d'une manière horizontale. Nous sommes tous pareils. On a besoin de lever la tête et voir cet homme qui a été levé entre ciel et terre sur cette croix et comprendre que Jésus a été bien le parfait rédempteur qui est capable de nous délivrer de tous nos péchés. La Bible est claire, il nous est dit « il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Actes chapitre 4 et verset 12. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, le Rédempteur. Je suis Jésus, l'agneau de Dieu. Je suis Jésus, celui-là seul qui est capable de pardonner ton péché. Je suis Jésus, celui-là qui est capable de sécher tes larmes. Je suis Jésus, ce matin, et je suis vivant au siècle des siècles. Je suis Jésus, celui qui a triomphé de la mort et qui est vivant au siècle des siècles. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Revenons à notre texte. Saul comprit son égarement. Le texte ne le précise pas, mais j'en suis convaincu à l'instant même, convaincu par le Saint-Esprit qui convainc de péché, cet homme expérimenta la repentance. Et c'est alors que, suite à cette première question, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Eh bien, voilà que cette première question engendre une deuxième question qui est tout aussi importante et que nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous devons également poser au Seigneur. Quelle est cette deuxième question ? Vous l'avez vue avec moi, verset 6. Il pose cette deuxième question au Seigneur, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Vous savez, tant que nous n'avons pas la révélation de qui est le Seigneur, on ne peut pas pleinement, profondément poser cette deuxième question avec sincérité, avec vérité de cœur. C'est une question capitale. « Que veux-tu que je fasse ?» Il est certain, premièrement, que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. « Que veux-tu que je fasse ?» Ben déjà, que tu te repentes de tes péchés, que tu te tournes vers ce Dieu d'amour qui t'aime. Et qui, au final, n'a jamais cessé de te chercher. Il veut que tu sois sauvé. Pour cela, il faut que tu expérimentes la repentance. La repentance, c'est cette profonde conviction de péché qui nous donne de prendre la décision de se détourner du péché. C'est un changement de mentalité, un changement de direction. C'est cela, la repentance. Et cette repentance nous amène à la vie éternelle. Elle nous amène à devenir une nouvelle création. Mais voyez-vous, cette deuxième question, que veux-tu que je fasse ? Eh bien, c'est aussi une question qui nous parle de notre raison d'être, ici-bas, sur cette terre. Au final, un jour, on est né. Je ne sais pas quand vous êtes né. Moi, c'était une certaine année, que je ne vous dirai pas. Mais le Seigneur, quand il nous a permis de naître et d'apparaître sur cette terre, il avait ses raisons. Et quand nous venons au Seigneur, on a ce saint désir au plus profond de nous-mêmes de pouvoir être utile à celui qui nous a accordé la vie. Parce qu'ici, il y a eu deux êtres qui nous ont permis d'être, je ne fais pas un jeu de mots, il faut qu'on se rappelle que celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, c'est Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une erreur. Il y a des personnes qui n'étaient pas forcément attendues et qui sont dans ce monde. Croyez-moi, vous n'êtes pas une erreur, vous êtes bel et bien présent et c'est parce que Dieu l'a voulu. Et parce qu'il nous a permis de naître, de vivre, il faut savoir aussi que le Seigneur nous a façonné tout notre caractère, notre personnalité. Dans les moindres détails, le Seigneur avait conçu toutes ces choses et il avait un but bien précis pour faire avec nous, pour travailler avec nous. Et quelque part, dire « Que veux-tu que je fasse ?» c'est quelque part s'abandonner à la volonté de Dieu. C'est de dire « Seigneur, j'ai compris que j'avais besoin de revenir vers mon Créateur. J'ai compris que j'avais besoin de revenir vers la source même de la vie. Mais Seigneur, je veux vivre pour toi. Vous savez, tant qu'on ne rentre pas dans les œuvres, dans les projets que Dieu a pour nous, nous allons être errants et nous ne serons jamais épanouis. Amen ou pas amen ? Tant que je n'ai pas découvert ce pourquoi Dieu m'a créé, ce pourquoi Dieu m'a mis en place ici-bas cette terre, je serai là errant, je serai insatisfait. C'est pour ça que nous avons cet avantage de connaître le Seigneur. Et quand nous connaissons le Seigneur, nous posons ces deux questions. Premièrement, qui es-tu, Seigneur, pour être éclairé sur eh bien, qui il est. Et puis deuxièmement, entrer dans cette deuxième question, que veux-tu que je fasse ? Cette question traduit notre désir de nous mettre à la disposition du Maître. Traduit aussi notre désir de vivre pour Jésus, notre roi. Traduit notre désir de nous mettre à son service. Et je l'ai dit, le service que Dieu a pour nous a bien fait partie de tous les projets qu'il a pour nos vies. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le savez ça ? Jérémie chapitre 29 et le verset 11 nous dit la chose suivante. Jérémie 29 verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que tu sois constamment dans le malheur, mais tu découvres avec moi qu'il a un projet pour ta vie, un projet de paix, afin eh bien, que tu aies un avenir, afin que tu aies eh bien, une espérance merveilleuse. Un autre passage, plus proche de nous, donc dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est l'apôtre Paul encore qui parle et qui dit « Nous sommes son ouvrage ». Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. En fait, ce que nous avons à faire ici-bas a déjà été préparé par Dieu. C'est ça qui doit nous rassurer. Ce n'est pas se gratter la tête, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, etc. Quoique le Seigneur dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais ce qui nous rassure, c'est que Dieu a déjà tout préparé. Il a quelque part déjà un plan de route pour chacune de nos vies. Parce qu'il n'est pas question, après être sauvé, de rester les bras croisés. Il y a tellement à faire. Après que Jésus ait fini de dire qu'il est la lumière du monde, il rappelle à l'Église qu'à son tour, chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes devenus aussi lumière pour ce monde. Et on a besoin eh bien, de servir au salut des âmes. On a besoin de servir les affaires de Dieu ici-bas dans ce monde de ténèbres. Dieu donc a une feuille de route pour chacune de nos vies. Et Saul de Tarse, quelque part, découvre sa feuille de route, quand il entendit le Seigneur lui dire « Va, lève-toi, acte 9, verset 6, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et de même, quelque part, il nous faut nous lever et commencer sérieusement à chercher la présence de Dieu. Afin que, confiné dans la présence de Dieu, au travers de la prière, au travers du jeûne, comme l'a expérimenté Saul, on le voit au travers du texte d'introduction que nous avons lu. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il a cherché la face de Dieu. Même dans le jeûne et la prière, Dieu est capable de nous révéler eh bien, ce pourquoi il nous a aussi créés, ce pourquoi il nous a aussi sauvés. Parce que vous connaissez ce dicton, sauvé pour servir. Toi aussi, tu as besoin de te lever. Moi aussi, j'ai besoin de me lever et chercher la face de Dieu, afin de découvrir ce que Dieu attend de nos vies personnelles. C'est alors que Saul reçut une vision. Il est en prière, il reçoit une vision, et Dieu lui parle d'un certain Ananias qui va venir devant lui et qui va prier pour lui et qui va même le baptiser. Et en même temps, le Seigneur eh bien, parle à cet homme Ananias, ce même Ananias qui demeurait dans la ville de Damas, et aussi au travers d'une vision, explique à ce Ananias eh bien, qu'il a besoin d'aller à tel endroit. Il lui donne vraiment la feuille de route pour le coup. Il lui donne les coordonnées, la localisation GPS. Tu vas là à tel endroit et tu vas trouver un homme du nom de Saul. J'ai besoin de lui. Vous savez, quand on commence à chercher Dieu, on rentre dans l'extraordinaire. On rentre dans le miraculeux. Cette rencontre, elle était tout aussi extraordinaire que celle que eh bien, Saul a vécue au travers de cette lumière éblouissante qu'il a mise par terre. Deux hommes qui ne se connaissaient pas, qui étaient même au départ opposés l'un à l'autre, se rencontrent pour ensemble accomplir les desseins de l'Éternel. Paul commence à vivre donc le surnaturel et le miraculeux avec Dieu. Mais à ce moment précis, mes amis, Paul était encore à des lieues de soupçonner tout ce que Dieu avait en réserve pour lui. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on le sait par la suite, cet homme, au travers de son ministère, eh bien, va écrire tellement d'épîtres, tellement de courriers, qui encore aujourd'hui nous sont pleinement précieux. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Tout le Nouveau Testament, une bonne partie du Nouveau Testament, ce sont ni plus ni moins ces écrits de l'apôtre Paul, inspirés par le Saint-Esprit et encore capables d'édifier l'Église du XXIe siècle. Frères et sœurs, tout cela pour nous dire que quand on se met à la disposition du Seigneur, quand on est là devant lui et on dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je suis à ta disposition. Dieu a des plans, a des projets qui nous dépassent. Dieu a des plans et des projets qui dépassent même notre entendement. Il n'y a que Dieu qui sait quels sont les projets merveilleux qu'il a formés pour nos vies. Mais pour entrer dans ces projets, pour entrer dans les plans de Dieu, et je termine par cela, nous avons besoin, tout comme Saul, d'accepter d'être éclairés par la lumière de Dieu. C'est clair que si nous ménageons des ténèbres dans nos cœurs, Dieu ne peut pas pleinement nous révéler ce qu'il a pour nous. Il faut commencer, eh bien, tout comme Saul, à accepter cette lumière qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et puis ensuite, eh bien, il nous faut nous approprier des deux questions que Saul adressa au Seigneur Jésus. Première question, qui es-tu, Seigneur? Je l'ai dit, je le répète, je me rends compte, trop de chrétiens ne savent pas de cœur qui est Jésus. Ils chantent Jésus, ils parlent de Jésus, et même ils ne se cachent pas d'être chrétiens, mais ils ne connaissent pas encore le Seigneur comme ils doivent le connaître. Et on a tous, et je m'inclus, besoin de chercher plus que jamais le Seigneur, qu'il se révèle à nous. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître davantage. Cette question nous invite à pouvoir le connaître, et c'est l'orgueil qui nous empêche eh bien, d'approfondir la connaissance eh bien, de Christ. Vous savez, je crois que même toute une vie n'est pas suffisante pour connaître qui est Jésus. Et il nous faudra peut-être certainement toute l'éternité pour connaître qui est Jésus. Et cette première question engendrera bien sûr la deuxième question qu'on vient de voir. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question nous invite à chercher de tout notre cœur eh bien, la volonté de Dieu pour nos vies. En fait, ces deux questions, elles sont intimement liées. Elles sont intimement liées car notre service sera fonction de la qualité de notre connaissance de qui est Jésus. Je me permets de répéter cette vérité. Notre service dans les choses de Dieu sera fonction de la qualité de notre connaissance de Christ. D'où l'importance quelque part de eh bien, connaître Dieu afin de mieux le servir en retour. C'est tellement important. Ces deux questions sont intimement liées. Et je voudrais juste terminer par eh bien, les conseils qu'a donné le roi David en son temps à son fils Salomon. Le roi David était presque sur la fin, prêt à mourir. Et il donne un conseil à ce jeune homme qui va prendre sa succession, son propre fils, le roi Salomon. Et il dit dans le livre des Chroniques au chapitre 28 et les versets 9 et 10, surtout la première partie de ce verset 9, il nous est dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et, donc c'est ensuite, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car de toute façon, l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Nous avons tous une construction à effectuer ici-bas, cette terre. Ne serait-ce que considérer que notre corps, et on l'a entendu aussi au travers d'un autre don spirituel, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut vraiment que ce corps soit sanctifié, soit battu pour être une demeure, alléluia, pour l'Éternel, et pour la puissance du Saint-Esprit qu'elle soit manifeste au travers de nous. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre tout ce que eh bien, il a voulu nous dire au travers sa parole, qu'il nous aide à le connaître davantage et que cela, en retour, nous incite à pouvoir le servir avec zèle, le servir avec amour. Ceci, avant son retour imminent, prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour cette expérience qui a été celle eh bien, de cet homme, Saul de Tarse, qui plus tard a été, c'est vrai, ce grand apôtre Paul, qui a encore toujours fait parler de lui. Tu l'as transformé, changé, par cette lumière pénétrante qui a chassé toute forme de ténèbres dans son esprit, dans son cœur. Et mieux encore, Seigneur, tu lui as apporté une révélation de qui tu es. Il a même vu, Seigneur, mon Dieu, ta personne à plusieurs reprises. Et tu lui as révélé qui tu étais. Et mieux encore, Seigneur, tu l'as introduit dans des projets, dans un service particulier au sein même de ton royaume. Et Seigneur, nous voudrions, nous aussi, Seigneur, vivre ces choses pleinement. Et Seigneur, encore ce matin, nous avons faim et soif de te connaître. Seigneur, nous ne voudrions pas être orgueilleux pour prétendre dire « Oh, je sais tout du Seigneur, j'ai fait le tour de la question. » Seigneur, certainement, nous avons tout à connaître de toi. Et reconsidérer qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant et vrai. Tu es Dieu toi-même. Et tu as vaincu la mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu es, c'est vrai, notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous prosternons devant toi. Et humblement, nous voudrions te dire d'une même voix, que veux-tu que nous fassions ? Au cœur même de cette pandémie, Seigneur, montre-nous les œuvres que tu as préparées d'avance. Donne-nous à pouvoir te servir d'une manière ou d'une autre. Enlève la timidité, la crainte dans nos cœurs. Mais que nous soyons pleins de zèle pour parler de toi. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, fais grâce en ce matin. Réveille nos cœurs. Donne-nous du zèle pour toi. Il nous faut encore marcher. Marcher jusqu'à ton prochain retour. Parce que tu es à la portée. Tu reviens bientôt. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit. Et le peuple de Dieu dit. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous encourage à reméditer sur toutes ces deux questions. Et d'une manière humble, laissez encore le Seigneur eh bien, vous parler au travers de ce message qu'il a placé sur mon cœur.